Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, le bon départ des Françaises dans la Coupe du Monde féminine de football. Des Françaises qui se sont imposées 4-0 devant les Sud-Coréennes hier soir à Paris. Nous y revenons dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard où il sera également question de tennis avec la sortie de Roger Federer par Rafael Nadal hier en demi-finale de Roland-Garros. Dans l'actualité de ce samedi également, l'émotion et l'incompréhension au Sable d'Olonne. Après la disparition d'un marin pêcheur à la retraite et la mort de trois sauveteurs qui tentaient de lui venir en aide. À suivre l'affaire des faux steaks hachés destinés à des démunis, des steaks sans conséquences pour la santé, mais aussi et surtout sans bœuf, ce qui suscite la colère des associations caritatives chargées de leur distribution. Dans ce journal également, l'ouverture de l'espace à des touristes fortunés et la fin d'une époque pour Céline Dion à Las Vegas. Enfin, à 8h20, des invités en relation avec la journée mondiale de l'océan, Éric Delvaux.
Oui, Bruno David, il est biologiste, il est marin, il est directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Également avec nous ce matin, Éric Orsenna, l'académicien, mais aussi marin. Il sera en direct de Saint-Malo.
France Inter.
L'émotion et l'incompréhension, Sable d'Olonne, où trois sauveteurs de la SNSM sont morts hier en partant secourir un petit chalutier dont le pêcheur est lui porté disparu. Quatre des sauveteurs ont pu pour leur part regagner le rivage à la nage, alors que leur canot venait de se retourner. Un canot par la suite échoué que de nombreux curieux sont venus voir. Au Sable d'Olonne, Benjamin Mathieu.
Sa coque verte est retournée, échouée sur un amas rocheux. On peut lire SNS 061, peint en lettres blanches sur la coque. Autour de l'épave, de nombreux débris. Les vagues sont encore grosses, le vent violent et les habitants très touchés.
C'est incompréhensible, dur de trouver des mots. Ouais.
Ça touche tout le monde. Hein.
Incompréhension et interrogation se mêlent immédiatement. Comment un bateau de sauvetage réputé insubmersible a-t-il pu se retourner?
Apparemment, il y a eu plein d'eau qui est tombée dessus et c'est pour ça qu'il est tombé en panne. Hein.
Mais ici, on se pose une question comme Michel. Pourquoi ce pêcheur est-il sorti en mer?
Celui qui a pris la mer, là, il avait quelque chose qui n'était pas net, quoi.
Même interrogation pour le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau.
Un pêcheur à la retraite, il est sablé d'origine et qui pêche ici, il connaît évidemment très bien le secteur.
Le maire qui est extrêmement choqué.
On est dans la douleur et on est dans le deuil.
Pense d'abord aux familles des trois victimes que tout le monde connaissait.
C'est les meilleurs de nous-mêmes qui étaient en mer aujourd'hui pour porter assistance.
Aujourd'hui, les cloches des Sables d'Olonne retentiront à midi pour leur rendre hommage et les drapeaux de la ville sont en berne.
Venu sur place dans la soirée pour faire part de l'émotion du gouvernement, le ministre de la Transition écologique n'a pas voulu polémiquer. François de Rugy a quand même tenu à revenir sur l'importance de respecter les consignes de sécurité. Il faut rappeler que les services de Météo France avaient diffusé une alerte orange en raison de la tempête Miguel qui arrivait au large des Sables d'Olonne.
Les suites de l'affaire des steaks hachés frauduleux fournis à des associations caritatives. Et ce matin, ces associations ne cachent pas leur colère.
Excès de gras, tissus de mauvaise qualité, amidon et soja, ce sont au total 780 tonnes de steaks hachés frauduleux en provenance de la Pologne qui, via l'Europe, ont été remis à la France pour être distribués aux plus démunis via des associations caritatives. Des associations qui ne cachent pas en effet aujourd'hui leur colère, que ce soit les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou bien encore les banques alimentaires, toutes se déclarent scandalisées. Je vous propose d'écouter la réaction de Sylvie Morisseau, la présidente des Restos du Cœur de la Vienne, jointe au téléphone par nos confrères de France Bleu Poitou.
Il y a eu une alerte qui a été tout de suite faite, tout a été tout de suite retiré. Et heureusement pour nous, très très peu avait été distribué. Et le peu distribué, on l'a récupéré. C'est une fraude à la qualité des produits hein, qui a été clairement constatée. Je trouve un peu trop souvent ces derniers temps des alertes sanitaires. Pas forcément sur de la viande. On a régulièrement des alertes sanitaires, donc je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau des choses qui sont distribuées dans les associations, mais il y a, je pense, un problème quelque part. On est toujours tous ces associations vers les plus démunis, vers les plus nécessiteux, et ce n'est pas normal que ce soit toujours sur les mêmes comptables. Chaque être humain a le droit à la dignité.
La Commission européenne a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la fraude. Ceci étant dit, c'est aux autorités nationales de garantir la qualité de l'alimentation, a pour sa part indiqué un porte-parole de la Commission européenne. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est que personne ne se soit étonné du faible coût de ces steaks fabriqués en Pologne qui, au regard de leur prix, ne pouvaient guère contenir beaucoup de bœuf.
Comme chaque année, les militants de lutte ouvrière se sont donné rendez-vous pour 3 jours dans le parc du château de Presles, c'est dans le Val d'Oise.
Spectacles, films et attractions sont au programme de cette fête annuelle. Une fête sur laquelle va planer le faible score obtenu par la liste de Nathalie Arthaud aux dernières élections européennes, 0,78%. Un faible score pour une formation fermement ancrée dans le paysage politique français, comme l'explique le directeur général délégué de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier.
C'est une formation qui effectivement survit à ses déboires électoraux parce qu'il y a une organisation historiquement implantée et qui tient, avec à chaque fois un leader qui incarne une ouvrière, mais également parce qu'il y a des électeurs très particuliers qui votent pour des formations et donc aussi pour lutte ouvrière en sachant parfaitement qu'elles n'obtiendront jamais plus de 1% ou de 2%, mais ce sont des électeurs très convaincus, très politisés, qui ont une grille de lecture du monde, une grille d'explication, et qui estiment qu'ils doivent faire entendre ce message. Et que pour le coup, cela justifie qu'ils aillent vraiment voter à chaque fois, donc ils pèsent 0,5, 1%, parfois plus. À une époque, ils étaient dans la zone plutôt des 5%, mais ils sont toujours là. Et c'est un des facteurs qui explique aussi pourquoi des formations extrêmement minoritaires telles que lutte ouvrière, malgré tout, perdure dans le paysage politique.
Brice Teinturier, joint au téléphone par François Rosy. À l'étranger, en bref, les États-Unis et le Mexique sont finalement parvenus à trouver un accord hier sur le dossier de l'immigration, en contrepartie de mesures fortes décidées par Mexico pour endiguer le flux migratoire à destination des États-Unis. Washington s'engage à suspendre les tarifs douaniers prévus pour être appliqués lundi. C'est Donald Trump lui-même, à peine rentré des cérémonies de commémoration du débarquement en Normandie, qui s'est chargé d'en faire l'annonce. Et puis en Grande-Bretagne, cette fois-ci, Theresa May a quitté hier la tête du Parti conservateur. C'est à son successeur à la tête de ce parti qu'il reviendra de s'installer au 10 Downing Street et de gérer le dossier du Brexit.
Bientôt des touristes dans l'espace et plus précisément à bord de la Station Spatiale Internationale.
Oui, c'est une annonce faite par la NASA qui a indiqué qu'elle allait bientôt autoriser des touristes à bord de l'ISS dès l'an prochain. Ceci dans un souci de rentabiliser la Station Spatiale Internationale dont l'entretien coûte, vous pouvez l'imaginer, très cher. Des astronautes privés pourront ainsi partir pour des missions d'environ 30 jours, mais pas à n'importe quel prix, Grégory Phillips.
C'est le directeur financier de la NASA, Jeff DeWitt, qui l'annonce. Pour un séjour d'environ un mois, les futurs touristes de l'espace devront payer à l'agence américaine un peu plus $1 million, soit $35 000 par nuit et par astronaute pour la nourriture, l'eau et le système de vie à bord. Mais le plus coûteux sera le voyage aller-retour vers l'ISS, qui leur sera facturé environ $58 million par l'une des deux sociétés privées retenues par la NASA pour assurer cette mission SpaceX ou Boeing. Cette politique de commercialisation, dit le directeur financier, nous permettra de redistribuer nos budgets afin de faire en sorte qu'une femme et un homme puissent à nouveau aller sur la Lune en 2024, ce qui nous préparera ensuite à aller sur Mars. La NASA entend aussi ouvrir l'ISS à des projets de films ou de publicités qui pourront être tournés à bord de la station à 400 km d'altitude. Pour l'agence américaine, il s'agit dans un premier temps de faire rentrer des fonds. L'entretien de l'ISS lui coûte chaque année entre 3 et 4 milliards de dollars, mais dans un deuxième temps, le gouvernement américain veut se désengager de cette station spatiale internationale et arrêter de la financer d'ici 2030. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Nous allons rester aux États-Unis, plus précisément à Las Vegas, où Céline Dion s'apprête à se produire pour la dernière fois ce soir, après 16 années de résidence dans la ville du jeu, plus d'un millier de concerts vus par 4 millions de spectateurs. Céline Dion qui a en fait lancé une nouvelle tendance dans cette ville de casino et qui effectue sa mue, Loïc Pialin.
Pendant longtemps, il était impensable pour une star au sommet de se produire 5 soirs par semaine à Las Vegas. Sin City était réservé aux gloires passées. Et puis, en mars 2003, Céline Dion a débarqué, heureuse de passer plus de temps avec ses enfants qu'en tournée. Le César Palace a construit une salle de 4000 places rien que pour elle et lui aurait offert $500 000 par show. Un investissement largement remboursé, ses concerts auraient rapporté près de $650 millions. Je me changerai. Et à une époque où les concerts sont devenus plus lucratifs que les ventes de disques, Jennifer Lopez, Britney Spears, Lady Gaga, Mariah Carey ont toutes imité la québécoise. L'industrie musicale a changé, Las Vegas aussi. DJ vedette en boîte de nuit, restaurant de grand standing, club de sport professionnel, tout est fait pour séduire des touristes plus jeunes et moins friands des machines à sous. Pendant 16 ans, Céline Dion a accompagné la ville dans sa mue. à Los Angeles, Loïc Pialat pour France Inter.
Céline Dion qui aurait semble-t-il l'intention d'aller passer l'été au Québec avant de se lancer dans une tournée mondiale. C'est la fin de ce journal, je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
Avec l'accent canadien, pourquoi pas.